frère, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, locataire oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Les prix des produits de première nécessité sur le marché de Kinshasa continuent à augmenter. Cette situation observée depuis la fin du mois de décembre 2019 s'est étendue jusqu'à ses premiers trimestres de l'année 2020. Un sachet de sucre de 5 kilos notamment qui coûtait au mois de décembre 6 500 francs se négocie actuellement à près de 11 000 francs congolais. Cette situation qui concerne plusieurs autres produits des premières nécessités inquiète plus d'une personne. Certains observateurs pensent que l'État congolais devrait consolider sa politique économique pour faire face à la rareté de certains produits des premières nécessités qui seraient aussi à la base de cette augmentation récurrente. Qu'en pensez-vous et quel regard portez-vous sur cette situation ? Dans cet échange citoyen, pendant 57 minutes, nous tenterons de recueillir vos avis et considérations et même votre lecture citoyenne sur cette situation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
À l'adresse pa@radiookapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou bien au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Merci à Jean-Noël Mokondo qui assure la mise en onde de cette émission réalisée et produite par Pierre Lamegi et Nico Kalambay. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Nous recevons dans ce studio Madame Acacia Bandou Bola. Bonjour Madame.
Bonjour, je suis un journaliste.
Vous êtes ministre de l'économie, merci de l'économie nationale, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de venir échanger de manière citoyenne avec les auditeurs qui sont en ligne avec nous. D'entrée des jeux, la situation que l'on observe depuis décembre dernier et qui s'est étendue jusqu'à ces jours, serait-elle due à la spéculation ou bien à l'offre et la demande ?
Évidemment, merci déjà pour la parole que vous m'accordez en ces jours. Je pense que cette émission nous aidera tous à voir clair sur la situation actuelle qui prévaut dans le marché des biens et services. Évidemment, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris à bras le corps la situation actuelle qui prévaut dans ce marché. Il s'agit bien de savoir déjà circonscrire le rôle du ministère de l'économie. Quel est l'apport du ministère de l'économie dans cette situation actuelle ? Évidemment, nous savons qu'il y a aussi, sur le bien des services, un paramètre très important qui joue sur l'augmentation ou la baisse de prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, en ce moment, nous allons nous mettre dans une situation de rareté. Et quand on parle de rareté en économie, on voit hausse de prix, on voit spéculation. Donc c'était absolument ce qui est arrivé sur certains produits de biens de grande consommation. Évidemment, actuellement, nous allons débattre sur le fond de la matière et nous allons expliquer chaque produit, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la variation à la hausse, quelles ont été les causes et quelles sont les solutions préconisées par le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Est-ce que dans l'ensemble, on peut dire qu'effectivement, il s'agit de la spéculation ?
Évidemment, vous savez, la spéculation vient lorsque il y a cette déséquilibre, il y a ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Mmh. Et dans cette période, dans cette situation, les opérateurs économiques
vous avez constaté ce déséquilibre.
Le déséquilibre y est parce que aujourd'hui, la demande intérieure est supérieure à l'offre. Donc automatiquement, il y a ce qu'on appelle le déséquilibre en économie. Et là, quand on parle de l'offre intérieure qui est inférieure à la demande, il y a ce qu'on appelle la spéculation, la rareté. Et la rareté en économie, c'est là où...
C'est une situation qui semble être vraiment endémique, qui depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. L'offre ne répond pas à la demande.
Malheureusement, il faudrait parfois se dire de vérité. Notre économie a toujours été extravertie. C'est une économie qui s'est tournée vers l'extérieur. Et ça, depuis des années et des années, depuis des décennies et des décennies. Les économistes, dans toutes les études qui ont été menées,
ont prouvé à ce que l'économie de notre pays a dégringolé depuis les années 93. Couplé cela de pillage de 91 et de 93, malheureusement avec des politiques économiques qui n'ont pas eu leur efficacité dans l'ensemble de l'économie du pays, ont fait que finalement l'économie du pays a été tournée vers l'extérieur. Tout ce que nous consommons, la plupart des produits que nous consommons viennent de l'extérieur. Il est temps maintenant, avec le gouvernement actuel de la République, de prendre le dossier à bras les corps et de trouver des solutions idoines. Les solutions idoines sont des solutions qui viennent de manière conjoncturelle, structurelles également, mais des solutions conjoncturelles, ce sont des solutions finalement
à court terme
qui répond à une conditionnalité spontanée. Finalement, et les conditions et les solutions à long terme, ce sont des solutions structurelles que les gouvernements, avec des politiques globales du gouvernement, ont été bel et bien établies. Donc actuellement, nous sommes en train de nager vers des solutions structurelles, mais aussi actuellement, nous nageons de manière spontanée vers une solution conjoncturelle sur quelques produits des biens de première nécessité.
Alors, un de vos prédécesseurs a mené une enquête pour, disons, connaître les vraies causes de ces spéculations en initiant une enquête sur la marge bénéficiaire. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande question, c'est gérer cette marge bénéficiaire. Les commerçants véreux, disons, cherchent à avoir des bénéfices au-delà de ce que eux, ils importent. Alors, est-ce que vous avez constaté cela lorsque vous avez effectué de la visite concrètement sur, disons, au marché de la Liberté, Somba Zigida, Gambela et au grand marché, tous situés à Kinshasa? Est-ce que vous avez constaté que la marge bénéficiaire, elle est exagérée?
Vous savez, le ministère de l'économie, dans le marché, justement, dans la gestion du marché du prix de biens et services, nous devons d'abord circonscrire ce que nous faisons, le rôle du ministère de l'économie. Le ministère de l'économie a pour rôle qui est défini dans la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. Cette loi donne, si je peux dire ça ainsi, le privilège aux opérateurs économiques de fixer le prix et en aval au ministère de l'économie de faire les contrôles qu'on appelle les contrôles a posteriori. Mais après que les opérateurs économiques aient déposé leur structure de prix au ministère de l'économie. C'est en ce moment-là que le ministère de l'économie peut faire un contrôle a posteriori. En effet, dans chaque produit que le TAR congolais, c'est-à-dire les opérateurs économiques, excusez-moi, mettent sur le marché, il y a une catégorisation de marge bénéficiaire. Généralement, ça varie entre 10 à 20% et ça dépend de type de produit. Et dans la structure de prix, je donne un exemple de produits importés. Généralement, nous avons la valeur CIF, le coût assurance fret. Nous avons la fiscalité, c'est-à-dire le douane, TVA, etc. Nous avons également la parafiscalité, c'est-à-dire toutes les taxes y afférentes. Également les intervenants. Et enfin, nous avons la marge bénéficiaire qui va déterminer, tous ces éléments vont déterminer le prix de vente. Et dans la marge bénéficiaire, je donne un exemple de produits importés comme le poulet, le chinchard, la marge bénéficiaire ne dépasse pas 10%. Ils sont entre, disons, je ne dirais pas zéro parce que aucun opérateur économique ne fait de commerce pour ne pas avoir de bénéfices. Donc, c'est-à-dire, de manière globale, la marge bénéficiaire ne dépasse pas 10%. Mais pour certaines catégories de biens, la marge bénéficiaire varie entre 15 à 20%. Donc ça, c'est un élément très important que nous devons savoir. Et nous, le ministère de l'économie, a posteriori, nous venons justement vérifier si l'opérateur économique respecte la marge bénéficiaire imposée par l'État, bien que la loi numéro 18 lui donne, 018 lui donne le privilège de fixer le prix, parce que nous sommes dans une économie libérale. Nous sommes dans une économie de marché, mais le contrôle
qui dit vient... économie libérale ne dit pas libertinage, ne dit pas
non, l'économie du marché, ce n'est pas la jungle. Voilà pourquoi je réponds à la question pour dire que a posteriori, nous faisons ce contrôle pour vérifier si l'opérateur économique respecte la marge bénéficiaire imposée par la loi. Et c'est ça notre.
Et s'il ne respecte pas,
s'il ne respecte pas, ce sont des sanctions qui suivent. et nous avons différents types de sanctions appliquées par actuellement nous avons pu actualiser l'arrêté ministériel que nous avons signé ensemble avec le ministre des Finances pour imposer des sanctions par rapport à certaines infractions que nous allons retrouver dans le chef de ces opérateurs économiques.
Madame Akasia Bandou Bola, nous vous gardons dans ce studio et on va écouter ensemble avec vous les auditeurs qui ont souhaité d'intervenir dans cette émission et d'échanger de manière citoyenne avec nous sur cette question des flambées des prix et qui s'étend pratiquement depuis 2019 au mois de décembre jusqu'à aujourd'hui et ça commence à inquiéter plus d'un. 081 890 63 30 ou encore les 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct.
Radio Okapi célèbre son 18e anniversaire avec ses auditeurs dans Okapi Service ce jeudi 27 février de 12h à 14h à l'Université Technologique Bel Campus de Limété, 8e rue, quartier industriel. Venez nombreux participer à la production publique du magazine Okapi Service qui portera sur la lutte contre les fake news dans les réseaux sociaux et la salubrité publique. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service ce jeudi 27 février de 12h à 14h à Bel Campus dans un show spécial 18 ans de Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Serrez les ceintures. 1, 2, 3. Merci. Camarades.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen qui parle de cette situation économique qui laisse à désirer. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent du fait que les prix augmentent et ne cessent d'augmenter. Papy, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Papy, vous êtes avec nous en ligne. Monsieur Louis, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gérard. Bonjour.
Quelle est votre contribution, lui?
Oui. Moi, je disais que lors de l'émission passée du même thème, j'avais dit que dans cette affaire, ce qui était grave, c'est le silence notoire des autorités face à cette augmentation progressive des prix des produits de première nécessité. Comme vous pouvez le constater, monsieur Gérard, rien n'a changé. Le silence continue et la hausse des prix poursuit son bon chemin. Moi, je pense que dans tout cela, il fallait revoir la loi sur la libéralisation des prix. Dans un pays comme celui-ci, où chacun se croit être libre de fixer son prix, cela ne fait qu'alimenter la spéculation. Je ne crois pas qu'il y ait rareté des produits et qu'à cause de cette rareté, qu'il y ait augmentation des prix, je ne crois pas. Donc il faudra que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités en ayant le contrôle des prix des biens de première nécessité et pourquoi pas la fixation même des prix de ces produits, parce qu'on ne pourra pas laisser continuer les gens choisir les prix sur les marchandises ou bien sur les produits de première nécessité. Je pense que l'État...
Oui, mais lui, c'est un problème de choix. L'État a fait le choix pour la libéralisation de l'économie nationale.
Mais oui, la libéralisation en question, mais c'est cette libéralisation qui fait alimenter la spéculation. Vous savez, dans ces pays comme les gens se croient libres, bon, on fait que chacun peut fixer le prix comme il le veut, mais cela ne n'arrange pas la population. Je pense que c'est ça. Donc il faut revoir vraiment.
Donc vous souhaitez qu'on puisse revoir un peu cette loi qui consacre d'ailleurs ce libertinage et qui pousse au fait les commerçants véreux à en faire comme ils veulent. Merci beaucoup lui d'avoir appelé de Kikwit. Et Jules, vous êtes à Bukavu. Merci et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Je remercie d'abord la thématique du jour. Monsieur J.R., les problèmes aujourd'hui de l'économie dans notre pays, nous ne pouvons pas dire que c'est un problème. Nous avons une crise économique, mais plutôt c'est une crise politique. Alors, cette augmentation des prix des produits de première nécessité dans notre pays, ça ne se passe pas seulement, ce n'est pas seulement au niveau de la capitale, mais je peux dire que c'est partout en République démocratique du Congo. Alors je vais intervenir en deux volets. Premièrement, je veux dire que, par exemple, ici chez nous à Bukavu, nous avons le même constat parce que en 2019, les prix que nous avons à cette époque, ce n'est pas le même prix que nous avons aujourd'hui. Par exemple, dans le territoire de Chabunda, où un bidon du carburant coûtait 50 000 francs, aujourd'hui, ça se négocie à 100 000 francs. Vous voyez ça, c'est un problème général dans notre pays. Alors, je veux dire seulement au gouvernement et aux dirigeants que ils doivent chercher une autre politique de gestion de notre économie.
Oui, mais c'est pourquoi nous avons dit, Jules, nous avons dit, est-ce que vous partagez d'avis qu'il va falloir consolider la politique économique de l'État congolais pour faire face à toute cette situation? Donc vous êtes d'avis?
Oui, c'est ce qui est nécessaire, si nous
avions. Alors pour vraiment consolider, il va falloir qu'on change la loi sur la libéralisation de l'économie et quoi encore? Quel autre élément? Voilà, Jules est parti. Alors, Justin, vous êtes à Fungurume. Justin, bonjour.
Bonjour, bien-aimé JR. Et je dis bonjour à notre invité qui est au studio là.
Quelle est votre contribution?
Oui, moi, je peux dire que les seuls patrons qui restent pour une régulation des prix, c'est un producteur. Tant qu'ici au Congo, on n'a pas des industries de production et de transformation, on ne va pas parler qu'il y aura une autorité qui va se mettre au marché, dire que non, baisser les prix de ceci et de cela, tant qu'il ne connaît pas même là où on est en train d'importer ça. Alors, il serait très souhaitable que nos autorités ne gardent pas silence comme notre premier intervenant, qui a dit que les autorités doivent vraiment mûrir les idées, comment que, pour donner l'indépendance des produits de première nécessité. Si on se met à table, on décide pour produire les produits vivrières, on se décide pour produire, prenons l'exemple du ciment et tout qu'on sort de l'huile, en tout cas, les choses produites localement ne vont pas coûter très cher comme les produits importés. La fois passée, j'avais donné l'exemple d'un expatrié, il s'appelle Walter Coutenier, qui est en train de produire la farine ici localement, il fait les champs, il transforme toujours ici à Fungurume, et il a mis un sac à 25 000 francs, pas à 25 000 francs, mais tandis que sur le marché, un seau de maïs, c'est donc dans le marché, le sac de 10 sacs, de 10 seaux, équivalent et est en train de galer à 35 000 francs actuellement. Mmh. Dans l'ancien, c'était à 45 000 francs. Alors, si nos dirigeants se mettaient autour d'une table, d'écarter les dépenses inutiles, de penser à conquérir les pouvoirs et les gérer le plus longtemps possible, et qu'ils se mettent aussi à raisonner comment terminer ces grands fléaux. Puisqu'il y a le corps et âme de l'homme affamé. Quand quelqu'un est affamé, il se livre à tout. Et il y a une pénurie. Et actuellement, là-haut, dans les bureaucrates, c'est le corps et âme de l'homme rassasié. Et nous qui sommes ici, c'est le corps et âme de l'homme affamé. Donc vous voyez qu'il y a une très grande fossé. Quand vous parlez qu'il y a les gens qui sont en train de peiner, d'une manière même pour manquer. Et lui, une autorité qui reçoit des émoluments et ses salaires ainsi de suite, il ne peut pas. C'est inentendu pour lui qu'il y a un Congolais ici à Fungurume. Il y a même les gens.
Donc vous voulez dire que les émoluments que reçoivent la ministre, elle permet donc de s'acheter tout et de tout consommer, mais les petits citoyens ne peuvent pas. C'est ça.
Ah oui, les petits citoyens, ils sont en train de peiner même pour trouver à manger. Or que c'est lui, ce sont eux qui devraient se réunir autour d'une table, de créer des appareils.
Donc réduire leur train de vie, et ça pourrait permettre à ce qu'ils soient dans le même diapason. Merci beaucoup, Justin, 081-890-6330, ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Radio Okapi célèbre son 18e anniversaire avec ses auditeurs dans Okapi Service ce jeudi 27 février de 12h à 14h à l'Université Technologique Bell Campus de Limété, 8e rue, quartier industriel. Venez nombreux participer à la production publique du magazine Okapi Service qui portera sur la lutte contre les fake news dans les réseaux sociaux et la salubrité publique. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service ce jeudi 27 février de 12h à 14h à Bell Campus dans un show spécial 18 ans de Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Serrez les ceintures. 1, 2, 3. Merci. Camarades.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, JR Lungembo.
18 ans de Radio Okapi, c'est déjà demain. En tout cas, prenez rendez-vous avec Okapi Service et tant d'autres émissions qui pourraient aborder ces sujets. Sylvain, vous êtes à Bounia, vous gardez la ligne. Nous revenons dans ces studios avec Madame Akacia Bandoubola, ministre de l'économie nationale. Vous avez suivi cette série des auditeurs, mais en conclusion, disons, en résumé de ces interventions, la révisitation de la loi sur la libéralisation de l'économie.
Je commence d'abord par la troisième question de Monsieur Gilles. Écoutez, les gouvernements ne sont pas silencieux. Nous sommes en train de communiquer sur cette problématique depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, le mois de décembre. Nous ne faisons que communiquer. Et les gouvernements de la République, comme je venais de dire tantôt, a pris les dossiers à bras les corps. Cette situation préoccupe le gouvernement dans son ensemble, particulièrement le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui est très préoccupé par rapport à cette problématique. Je ne peux pas vous dire le coulisses de solutions qui sont en train d'être préconisées au sein du gouvernement, mais je vous donne juste une information qu'au sein du gouvernement, dans presque chaque conseil des ministres, le ministre de l'économie nationale fait un rapport global et propose des politiques économiques à l'ensemble des gouvernements. Et le Premier ministre a été instruit par le président de la République de réunir tout autour de la table les ministères sectoriels qui participent, n'est-ce pas, à l'essor ou à la croissance de notre économie. Et ça, c'est un travail qui a été fait. Je ne suis pas là pour justifier les gouvernements actuels, mais il faut dire une chose. J'avais dit que nous avons des solutions structurelles et des solutions conjoncturelles. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est résoudre un problème à l'immédiat. Donc, ça veut dire donner une solution conjoncturelle, c'est-à-dire ouvrir l'importation. Je vous donne un exemple, hein, très rapidement, parce que j'aimerais quand même que les gens comprennent. Je vous donne un exemple de produits tels que le sucre brun. Le sucre brun avait augmenté. Il était de 12 500 francs. Avant, c'était 7 500 au mois de novembre. Au mois de décembre, ça a augmenté à 12 500 francs. Évidemment, il y a une forte augmentation. Nous avons convoqué dans nos locaux le numéro 1, le directeur général de Kwelungongo, pour qu'il nous donne des explications par rapport à la situation. Pourquoi ça a été fait? Parce que le gouvernement de la République, dans les soucis de protéger l'industrie locale, avait interdit l'importation de sucre brun en République démocratique du Congo. Kwelungongo est une société qui répond à la demande intérieure de l'ouest du Congo. Si le gouvernement avait autorisé l'importation, Kwelungongo allait fermer. Pourquoi? Parce que les produits qui viennent de pays limitrophes ou encore plus loin, de la Chine par exemple, ça peut arriver, du Brésil, ainsi de suite, étaient beaucoup plus moins chers et ça faisait du dumping. Alors le gouvernement, pour protéger l'industrie locale, protéger les emplois des Congolais, protéger la société congolaise, parce que c'est 40%, c'est une société mixte, hein, étatique et privée. Pour protéger cette industrie, le gouvernement a restreint les importations. Ce qui faisait que Kwelungongo pouvait répondre à la demande globale de la population de la partie ouest. Et la population, disons, la demande était évaluée à 100 000 tonnes. Et Kwelungongo offrait 100 000 tonnes à la population. Voilà pourquoi le prix du sucre était stable. Mais Kwelungongo a eu des problèmes par rapport à la campagne de l'année précédente, de l'année passée. Au lieu de 100 000 tonnes, Kwelungongo a livré 60 000 tonnes. Pourquoi?
Un déficit
de 40 000 tonnes. Parce qu'il y avait un mauvais, il faut dire une mauvaise campagne à cause de la situation climatique. Il y avait tellement de pluies abondantes qui ont fait que la récolte était très mauvaise. Et il y a un déficit de 40 000 tonnes. Ce qui fait que, vous avez vu qu'il y a eu déséquilibre directement sur le marché de l'offre et de la demande. Il n'était plus capable de pouvoir répondre à la demande de 100 000 tonnes, la demande intérieure. Voilà pourquoi, directement, nous avons eu cette situation de hausse de prix du sucre. Alors, le gouvernement, très rapidement, pour résoudre ce problème conjoncturel, a ouvert l'importation. Et nous avons vu des cargaisons, et d'ailleurs, ça ne fait que commencer. Hein. Il y aura bientôt beaucoup de cargaisons de sucre brun qui vont arriver sur le marché. Quand ça va inonder le marché, nous allons revenir à l'équilibre initial qui est...
Que répondez-vous à ceux qui estiment que ce n'est pas question de l'importation, mais c'est plutôt de renforcer la production locale?
Non, je vais y arriver. C'est très important parce que j'aimerais que les gens comprennent. Parce qu'on nous dit que nous ne communiquons pas, alors que nous communiquons. Il faut que j'explique ça très rapidement et les auditeurs doivent vraiment comprendre la situation actuelle. Le gouvernement a résolu un problème conjoncturel en ouvrant les importations qui a été finalement fermée pendant un certain moment pour protéger l'industrie locale. Et je veux vous informer qu'aujourd'hui, les sucres qui se vendaient à 12 500 francs, ça se vend aujourd'hui à 10 000 francs. Donc, le prix du sucre commence à baisser parce que l'équilibre commence à revenir. Et ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que en économie, il y a une politique de la rigidité de prix. Les prix augmentent très rapidement, mais ça baisse de manière faible.
C'est comme la maladie.
Voilà.
La guérison, c'est bon, l'exemple pour le commun des mortels.
Exactement. Donc, les prix augmentent très rapidement, mais la baisse, ça vient graduellement. Et c'est ce qu'on est en train de constater actuellement. Le prix du sucre actuellement est à 10 000 francs, au lieu de 12 000 francs au mois de janvier passé. Donc, l'équilibre est en train de revenir au fur et à mesure parce que nous avons pris une politique conjoncturelle pour résoudre le problème. Mais il est vrai que Jules a soulevé un fait, c'est-à-dire la production. L'économie ne se nage pas par magie. Nous sommes au gouvernement qu'à peine 5 mois. Et nous sommes en train de mettre en place des politiques qui vont être prises en charge à court, en moyen et à long terme. Les politiques en court terme, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, de politique conjoncturelle. Mais les politiques en moyen à long terme, ça s'appelle la production. En économie, ce n'est pas par baguette magique qu'on va commencer à produire. Il faut commencer à mettre en place des politiques qui vont prendre le moyen et le long terme. Cela le veut dire tout simplement que commencer par la production
actuelle. Tout économiste averti utilise ces termes-là.
Non, mais parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Commencer à produire. Dites-moi, qu'est-ce que nous produisons au Congo?
Rien du tout.
Rien du tout.
Donc la solution viendra pas aujourd'hui.
La solution viendra par des politiques que nous sommes en train de mettre en place. Les gouvernements actuels.
Vos prédécesseurs dans ces studios, ils ont dit la même chose. Mais quand je prends les mesures que vous avez arrêtées, la redynamisation du comité de suivi des produits des premières nécessités, la mise en place d'une synergie entre les ministères productifs ou sectoriels, et l'instauration des contrôles réguliers des prix auprès des opérateurs économiques en vue d'imposer des sanctions aux spéculateurs. Le gouvernement Tshibala, avec les ministères productifs, je cite, il est encore au ministère, il est encore au gouvernement, Jean-Lucien Boussa, Bahatilou Kouébo, tous, ils ont donné une batterie de mesures. En quoi ces mesures sont différentes de celles que vous avez évoquées, que le gouvernement actuel vient d'évoquer?
Elles sont différentes dans la mesure où, dans la applicabilité des mesures, ce qui compte avant tout, c'est la volonté politique. Et c'est ce que nous avons dans ce gouvernement. Le président de la République a une vision. C'est quoi sa vision? C'est le peuple d'abord. La vision, c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire le bien-être du peuple congolais. Et le président de la République souligne ça dans tout le discours qu'il fait. Il dit que je mets l'homme congolais au centre de mes actions. Ça veut dire que tout ce que nous faisons au sein de ce gouvernement met l'homme congolais, met l'amélioration du quotidien des Congolais. Nous sommes les élèves de Étienne Tshisekedi. Nous venons dans la leçon du peuple d'abord. Nous avons les soucis du peuple parce que nous avons vécu avec ces peuples-là. Et nous avons cette volonté de changer les choses. C'est ce qui compte dans ces pays. On peut beau dire, il y a eu plein de discours, mais c'est l'applicabilité qui se marie avec la volonté politique qui accomplit finalement de miracles. Un miracle, c'est entre parenthèses, c'est une façon de parler. Donc, nous devons commencer par produire. Et les présidents de la République, comme je viens de dire tout à l'heure, instruit les premiers ministres de réunir les ministères sectoriels. Et il suit à la lettre ce qui se passe. Les mesures que nous avons prises au ministère de l'économie, ce sont des mesures liés à l'économie pour que nous puissions contrôler. Nous avons restreint nos mesures par rapport à nos attributions. Mais pour que l'économie du pays marche, ce n'est pas les ministères de l'économie seuls. C'est les politiques du gouvernement, ce sont les politiques que le gouvernement...
C'est une question transversale.
Voilà, c'est une question transversale, vous l'avez bien dit.
Madame, il y a une deuxième série des auditeurs. Il y a Sylvain qui est à Bounia, Gervais à Kalemie, Mathieu à Kinshasa. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution, Sylvain?
Oui, je voudrais d'abord saluer la ministre. Elle a parfaitement raison. Cette question, il faut dire en réalité aujourd'hui, relève de la politique de la cueillette qu'a utilisé notre économie depuis 60 jusqu'à ce jour. Mais c'est les journalistes. Toute économie est paramétrée, calculée et programmée. Ça veut dire, lorsque nous gérons un pays, vous vous dites que ce n'est pas économique. Puisqu'il faut reconnaître qu'en économie, tel que Mme la ministre l'a dit, les choses sont réfléchies à trois dimensions. Il y a la dimension à court terme, à moyen terme et à long terme. Je suis d'accord avec elle lorsqu'elle soulève la question et la problématique conjoncturelle de notre économie. Mais vous venez de lui poser une très belle question. Et je voudrais qu'on échange avec elle là-dessus. Est-ce que c'était tout le temps que le ministre veut nous dire il faut toujours repenser le problème conjoncturel ou il faut mettre en place une politique de nature à stabiliser l'économie de notre pays? Je l'ai toujours dit, madame, je sens en elle un économiste comme moi, les physiocrates, déjà dans l'Antiquité, nous ont dit toute chose restant égale par ailleurs, et aujourd'hui les Keynésiens disent la même chose aussi, la paix reste une base de notre économie, et c'est le cas de la RDC. Mais est-ce qu'elle peut dire avec moi, et même des économistes qui me suivent à travers cette émission, que nous avons renversé l'échelle de notre structure économique? Nous avons trois grands secteurs de l'économie, le secteur primaire, le secteur secondaire et tertiaire. Nous allons vers le secteur quaternaire, en étude bien sûr jusqu'au début. Lorsque vous retrouvez une majeure partie des Congolais dans le secteur tertiaire, tout le monde a les téléphones portables, tout le monde s'achète les biens de transport de véhicules, et d'ailleurs, des fois, on en a 2, 3, 4. Nous avons désintégré notre économie. Nous avons nous-mêmes provoqué par notre acte économique irrationnel. Nous parlons de la question de la production locale, monsieur le journaliste. Très bonne question. Il faut que nous puissions dire. Qu'est-ce que dit la RDC? La ministre le répond à tout moment. Mais on ne fait pas de réponse. La protection de l'industrie, je suis d'accord avec la ministre, mais je lui pose une question comme je l'avais posée au ministre Charles-Michel Boucher les années passées. Quelle est l'industrie congolaise que nous allons protéger? Nous sommes une économie extrêmement extravertie, avec une puissance étrangère économique largement supérieure à notre production. Je veux dire ceci. Il faut toucher la...
Oui, et pour ne pas vous garder le plus longtemps, Sylvain, il y a beaucoup d'autres auditeurs qui attendent, mais juste une question de curiosité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les plus grands économistes du monde ont donné au gouvernement Matata 1 et Matata 2 comme être une très bonne école et un bon élève et dans la gestion, et je crois qu'en cette époque-là, le gouvernement Matata 1 et Matata 2 avaient proposé des solutions pratiquement structurelle en instaurant donc des poules de production comme Bukanga Lonzo et les autres. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché?
Monsieur le journaliste, toute chose est égale par ailleurs. Lorsque nous voulons stabiliser notre économie, il faut en définir la base et la prévenir. Moi, aujourd'hui, je parle de cette question. Il faut financer et promouvoir l'entrepreneuriat agricole ou l'entrepreneuriat du premier secteur. Puisque c'est ça la base de l'économie, je suis d'avis avec ce qui pense aujourd'hui que le secteur agricole est minimisé et c'est là la base de la déstabilisation. Nous importons même les gagnants.
Merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup Sylvain. On prend Gervais qui est à Kalemie et Mathieu à Kinshasa. Gervais, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité, bonjour à tout le monde de la radio au Capi qui me suit en ce moment.
Quelle est votre contribution, Gervais?
Oui, Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, c'est un sujet qui nous a beaucoup plus intéressé parce que la situation dans laquelle nous évoluons actuellement, c'est comme si nous constatons d'ores et déjà les droits fondamentaux qui sont tellement sacrifiés pour les jeunes, où il y a les droits à la survie ainsi que la sécurité alimentaire qui n'est pas prise en compte au pays. Aujourd'hui, nous venons de suivre la dame qui est avec vous sur le plateau, qui nous parle en ce qui concerne la protection de l'industrie en passant. Et nous aimerions aussi relever certains défis quant à ça, parce que la protection de l'industrie, si elle nous parle de la protection de l'industrie aujourd'hui, ce n'est qu'une lettre morte aujourd'hui. Si nous sommes à travers la République, c'est la plupart des jeunes citoyens qui se plaignent par rapport à la hausse de prix des produits élémentaires ou vivriers. Prenons par exemple chez nous à Calémy, même une mesure de maïs dont on payait à l'époque à 17 000, récemment à 22 000, mais aujourd'hui c'est à 24 000. Tout ça, il y a eu une instabilité sur le plan agricole, donc la politique...
Voilà. Merci beaucoup, Gervais. Alors, on va terminer cette série avec vous, Mathieu. Mathieu, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Mathieu.
Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité. Je suis Mathieu Alenga, en deuxième licence économie management ici à Kinshasa, à l'université du Sepomas de Guinée. Et je suis d'accord avec madame, notre invitée, que j'aimerais même à la fin de cette émission lui demander son aval si elle voudra que je puisse la dédicacer dans mon travail de mémoire. Il est vrai que tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai, mais néanmoins, nous devons quand même savoir, il faut qu'il puisse y avoir une diminution des frais douaniers. Une diminution des frais douaniers pour les importations, avec ce système qui est mis en place maintenant pour booster la production locale proprement dite, parce que certes, la production locale qui est en train d'être mise en place, ce n'est pas comme cette production qu'on avait voulu nous faire montrer des poudres aux yeux avec des investissements d'éléphants blancs tels que Mukangalonjo, distribution des tracteurs aux 26 provinces pour que ça produise. Or, tous, nous savons comment ces tracteurs-là étaient devenus des biens privés de ces gens-là, qui étaient, entre autres, aussi des jeunes, mais ces jeunes-là qui continuaient tout de suite à travailler pour leur propre ventre, raison pour laquelle on a constaté que beaucoup d'entre eux commençaient à vieillir par les barbes, parce que toute leur vie ne faisait que travailler pour leur ventre. Et raison pour laquelle tous ces bloqués ignorent que ces jeunes-là ont commencé à vieillir par les barbes parce qu'ils ont passé leur temps à servir leur ventre.
Merci beaucoup. Merci Gervais d'avoir contribué dans cette émission 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Radio Okapi célèbre son 18e anniversaire avec ses auditeurs dans Okapi Service ce jeudi 27 février de 12h à 14h à l'Université Technologique Bell Campus de Limété, 8e rue, quartier industriel. Venez nombreux participer à la production publique du magazine Okapi Service qui portera sur la lutte contre les fake news dans les réseaux sociaux et la salubrité publique. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service ce jeudi 27 février de 12h à 14h à Bell Campus dans un show spécial 18 ans de Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Serrez les ceintures. 1, 2, 3. Merci. Camarades.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
C'est avec plaisir que nous partageons ces 57 minutes interactives avec vous. Il nous reste pratiquement un quart d'heure. On va écouter notre invité, Madame Acacia Bandoubola, ministre de l'économie nationale. Vous venez de suivre cette deuxième série, cette longue deuxième série. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui vous ont soutenu et d'autres qui ont également émis quelques inquiétudes par rapport à cette question, parce que qui ne date pas d'aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne des comptes et qui nécessitent quand même un regard économique très outillé. Alors, que répondez-vous aux uns, par exemple, à ceux qui pensent qu'il faut financer l'entrepreneuriat?
Écoutez, j'aimerais d'abord répondre à plusieurs questions parce qu'il vraiment il faudrait malheureusement l'émission, j'ai l'impression qu'elle est courte parce que les questions sont essentielles et les réponses doivent être claires et j'allais plutôt prendre du temps pour répondre à certaines questions, préoccupations que je trouve très pertinentes. La première des choses, s'il faut revenir hein, excusez-moi de revenir un tout petit peu sur le monsieur qui avait parlé par rapport à l'abolition, si je peux parler ainsi, de la loi numéro 18/020. Moi, je me dis tout simplement, écoutez, nous sommes dans un... Le monde est devenu un grand village. Nous ne pouvons pas nous recroqueviller sur nous-mêmes. Parce que aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs membres dans plusieurs blocs économiques de la sous-région. Aujourd'hui, nous allons également intégrer la ZELCAF, hein, la zone de libre-échange continental africain. Cette zone nous permettra justement d'ouvrir des barrières entre différentes nations pour que les échanges commerciaux maintenant soient efficaces et portent de fruits. Et nous ne pouvons pas en ce moment dire que voilà, nous allons fixer le prix de la tomate pendant que le membre de la communauté ne fixe pas le prix de la tomate. Nous sommes dans une économie du marché et nous devons laisser cours à la loi de l'offre et à la demande. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait savoir, au ministère de l'économie, nous avons des produits libres ou qui agissent dans l'économie libérale et nous avons également le produit qu'on appelle des produits stratégiques. Les produits stratégiques, ce sont des produits qui sont restructurés par l'État. Nous avons le carburant, nous avons le prix de l'électricité, nous avons la régie du jour, nous avons le transport en commun. Ce sont des produits qui sont subventionnés par l'État congolais. Et il faut dire que notre économie, comme j'avais dit tout à l'heure, ça c'est pour répondre à sa question, notre économie a été quand même en difficulté depuis très très longtemps. Pour la relever, c'est un challenge, c'est un défi que nous, les gouvernements actuels, nous avons pris l'engagement de relever notre économie. Mais nous n'allons pas nous réveiller demain, l'économie s'accroître directement. Il faut prendre des mesures. Et ces mesures, généralement, ce sont des mesures à moyen et à long terme. Il a parlé de la production. D'accord. Si on commence par produire, c'est pas demain qu'on aura le résultat. On commence par produire, mais après, il faudrait attendre pour que le résultat soit efficace et que ça soit impactable sur le plan économique. Le président de la République, lorsqu'il avait présenté l'état de la nation, il a présenté au peuple congolais qu'il y a l'agriculture et son cheval de bataille. Il a fait de l'agriculture son cheval de bataille. Et le ministre de l'Agriculture, qui est mieux outillé que moi, peut vous dire déjà à quel niveau se trouve le dossier actuel. Parce que nous avons signé des protocoles d'accord avec des industries qui vont venir investir et produire sur place ici au Congo. Mais ce sont des processus qui prennent un peu de temps. Donc c'est vrai que la situation actuelle ne donne pas la patience au peuple congolais et veulent des résultats directement. Mais les résultats directs ne viennent que de mesures conjoncturelles. Les mesures que nous avons prises maintenant au sein du gouvernement sont des mesures qui vont impacter à moyen et à court terme. Et même si nous n'allons pas le voir, ce sont peut-être nos enfants, ce sont peut-être nos arrière-petits-enfants. C'est comme ça qu'on construit une société. Une société ne se construit pas le même jour. Et nous qui peut-être avons vécu dans les pays du Nord, c'est-à-dire dans les pays occidentaux, nous savons que leurs aïeux ont mis de base. Et ce sont les enfants ou encore les parents qui ont continué le chemin. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec le gouvernement. Je ne vais pas dire que les gens vont manger après 20 ans. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je vais tout simplement dire que nous sommes en train de mettre des bases et le président a pris le dossier de l'agriculture entre ses mains, parce que pendant l'état de la nation, nous avons signé des protocoles d'accord.
Donc on peut dire, les gens d'une certaine génération, ils ne doivent pas espérer au changement maintenant.
Pas du tout, je répétais ça tout à l'heure, j'ai dit ce n'est pas ce que je veux dire. Je vais tout simplement dire que parfois, même s'il faut commencer à produire sur place, et d'ailleurs c'est les challenges de ces gouvernements, mais les résultats de la production ne tombent pas le lendemain. Les résultats de la production vont venir au
donc avant la fin de la mandature. Avant la fin de la mandature,
les moyens termes, je ne peux pas vous donner la date. Les moyens termes en économie,
c'est moins de 6 ans.
C'est moins de 3 ans. Mm-hmm. C'est-à-dire moins de 3 ans. Et les longs termes, ça commence à partir de 5 ans.
5 ans.
Donc,
au-delà.
Ça veut tout simplement dire qu'il faut avoir parfois la patience pour que nous puissions voir notre économie devenir une économie forte. Mais nous sommes en train d'y travailler et le gouvernement n'est pas silencieux par rapport à cette situation. D'autant plus que la ministre de l'économie...
C'est lui qui a dit qu'il faut financer l'entrepreneuriat.
Évidemment, l'entrepreneuriat, il faut financer. Quand on parle de finance, je vous donne un exemple. De produits comme le maïs. Quand il y a eu crise de maïs
au Katanga.
Au Katanga. Je suis allée avec mon collègue du commerce extérieur pour résoudre la crise. Mais nous avons résolu la crise de manière conjoncturelle en ouvrant l'importation. Et nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement zambien pour qu'il nous livre du maïs pendant une certaine période. Et là, ça a commencé au mois de, je crois, ça a commencé en fin janvier jusqu'en fin décembre. Nous allons voir finalement ces produits venir au Congo et au Katanga particulièrement. Et ça va équilibrer cette déficit qu'il y a eu entre l'offre et la demande. Ça, ce sont des mesures ponctuelles. Mais au-delà des mesures ponctuelles, je crois que le gouverneur du Katanga et mes outillés pour entrer dans le vif de la matière, il y a eu un accord qui a été signé avec une entreprise d'une grande envergure qui va commencer à produire sur place. Mais ça ne commence pas le lendemain. Il faut de la logistique, il faut de l'importation, il faut importer les engrains, il faut investir dans les locaux, il faut investir dans les machines. Et tout ça, ça prend un peu du temps. Mais conjoncturellement, nous avons ouvert l'importation. À long terme, il y aura des productions internes et des productions sur place qui vont finalement résoudre cette problématique.
Alors, il y a un autre auditeur qui a parlé de quelle industrie allez-vous protéger?
Le peu d'industries que nous avons. Nous en avons
pas beaucoup. Il y en a combien?
Je sais pas, je peux pas compter les nombres. La personne qui peut bien compter les nombres, c'est mon collègue de l'industrie. C'est lui qui peut compter les nombres. Mais nous en avons. Le peu que nous en avons, nous ne pouvons pas le rejeter. Nous devons protéger ces industries. Mais en même temps, ces industries que nous protégeons doivent être en mesure de rassurer l'État congolais, de répondre à la demande interne, à la demande intérieure. C'est ce que nous avons exigé à l'industrie comme le Kulungongo. Parce qu'il y a des Congolais qui travaillent là-bas, des pères de famille, de responsables. Plusieurs Congolais travaillent là-bas. Nous ne pouvons pas le lendemain fermer cette société pour que finalement ces mêmes Congolais qui étaient en train de travailler là-bas puissent se retrouver dans le
chômage. Quelle est la situation de Bukangalonzo à ces jours?
Bukangalonzo, je n'ai aucune idée. D'autant plus que ce n'était pas dans notre gouvernement, ça a été dans le gouvernement passé.
Et le principe de continuité?
Non, il n'y a pas le principe de continuité.
Vous ne vous êtes même pas donné la peine de savoir qu'est-ce qui s'est passé?
La personne.
C'est de l'argent des contribuables congolais.
Écoutez, ce n'est pas que l'on refuse le principe de continuité. Mais moi, je ne peux parler de dossiers avec exactitude qui sont dans mon secteur. Bukangalonzo, ça relève de l'agriculture. Et je pense que le ministre de l'Agriculture est mieux outillé pour vous parler où se trouvent ces dossiers actuellement. Mais ce qui est vrai, ce que moi je sais, c'est qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé avec des grandes firmes qui vont venir investir ici, sur place, et vous verrez des résultats. Parfois, il faut être
pour effacer patient, Bukangalonzo.
Je ne sais pas si pour effacer Bukangalonzo, mais au moins pour produire sur place et donner à manger aux Congolais.
Voilà, on va poursuivre cette émission, mais juste une question de curiosité avant de terminer, mais je reçois d'abord les deux derniers auditeurs, Pacifique Alumbashi et Pichua Kulungongo, le temps peut-être que vous puissiez revoir qu'est-ce qui reste à dire aux auditeurs par rapport à cette question. Pacifique, vous êtes Alumbashi, bonjour.
Bonjour JR, également à votre invité, je la salue, tous les auditeurs de la radio Okapi.
Rapidement, il faut être précis, quelle est votre préoccupation, la contribution par rapport à cette mission?
Je vais être très rapide, JR, excusez-moi de prendre deux volets dans mon intervention. Le premier volet, c'est un problème de régime. Tout à fait, madame nous parle des principes économiques. Ça c'est vrai, elle est restée aussi et dans les principes. La loi de l'offre et de la demande. Tout ça, même un étudiant des premiers graduats connaît tout cela. Mais nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de la faisabilité. Mathieu Tampogne nous avait aussi parlé des macros, tout ça qui n'avait pas d'impact. J.R., c'est un problème de régime. Premier élément, la justice doit faire son travail chez nous. J.R., vous posez la question à madame. Madame ne sait pas vous répondre correctement. Est-ce que vous connaissez un politicien qui ne fait pas les affaires en République démocratique du Congo? La plupart font des affaires. Quels sont les mécanismes de contrôle que les ministères de l'économie ont mis en place pour contraindre tous ces gens-là? Et on est incapable de contraindre tous ces politiciens qui font des affaires ici. Ils peuvent remonter des prix. Ils sont c'est les sous-battements tout simplement là où ils sont, mais on ne le voit pas flotter.
Merci beaucoup. Merci Pacifique.
Ça devient très compliqué, ça devient très difficile, JR, en ce moment-là.
Merci beaucoup Pacifique. Merci beaucoup. Alors Pichou, vous nous avez également rejoint, vous êtes à Kulungongo. Bonjour Pichou.
Bonjour JR, bonjour à Madame la Ministre de l'Économie.
Soyez précis, quelle est votre contribution?
Oui, ma contribution est que Madame parle de l'économie, en fait, du développement de l'économie. Moi, je voudrais insister d'une chose, que l'économie d'un pays se base plus sur la production. Ça dit que madame doit lutter, comme elle a dit, elle a promis que peut-être ça peut finir pas maintenant avec nos enfants, mais elles doivent lutter pour que les industries soient vraiment, vraiment installées ici au Congo. Et ceux qui existent, ils doivent, n'est-ce pas, continuer à mettre la main, ils doivent avoir la main mise sur toutes ces entreprises qui sont ici au niveau du Congo. Parce que nous le constatons, qu'au niveau, par exemple, des industries que nous avons ici au Congo, il n'y a pas vraiment un suivi. Même ceux-là qui importent, madame parle de l'importation de maïs. Aujourd'hui, ils importent. Ce sont des devises qui vont aller à l'extérieur. Et notre économie va...
Voilà, merci beaucoup Pichou d'être revenu sur les suivis. Alors madame, d'abord à Pichou. Et aussi à Pacifique qui redoute quand même que rien ne soit fait.
Je vais répondre comme j'avais dit tantôt, que dans chaque développement, nous pouvons parler français, anglais, allemand, tout ce que nous voulons, Lingala, en Swahili ou Chiluba. Mais ce qui importe, c'est l'applicabilité des mesures. Et l'applicabilité des mesures ne vient que dans une volonté politique d'accomplir la vision du chef de l'État. Le chef de l'État est débordant de volonté de changer les choses. Et nous l'avons implémenté par sa vision. Nous qui sommes dans l'exécution, nous avons l'obligation, puisque le chef a la vision, nous avons l'obligation finalement de matérialiser la vision du chef de l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça fait 5 mois qu'on est là au gouvernement et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que ces choses puissent finalement changer. Je parle de mécanismes, je parle de mécanismes de contrôle ou encore comment est-ce que le ministre de l'économie fait. Moi, je me dis tout simplement, nous avons des mesures que nous avons prises. La stabilité des prix est une question transversale. Il parle de la production, évidemment. Mais la production, nos ministères de l'économie ne produisons pas. Les ministres de l'agriculture a été instruit justement pour booster la production. Les ministres de l'industrie a été instruit pour booster l'industrie. Les ministres de petites et moyennes entreprises a été instruit pour booster l'entrepreneuriat. Les ministres de l'économie a été instruit pour contrôler sur place. C'est comme ça que l'on travaille dans une synergie d'ensemble. C'est comme ça qu'on appelle la cohésion ou la synergie gouvernementale dans les ministères sectoriels. Nous, nous sommes comme le policier du gouvernement. Parfois, je fais rire aux ministres, je leur dis, je suis la maman du gouvernement. Parce que tout ce que vous faites, ça se répercute sur moi. Si vous faites mal, ça se répercute sur l'économie. Si vous le faites bien, ça se répercutera également sur l'économie. Parce que moi, je n'ai pas trop de levier pour agir, pour produire, pour protéger l'industrie. Ce sont des ministères sectoriels qui doivent s'en occuper. Et ils les font très bien. Aujourd'hui, on parle même de la zone... de zones économiques spéciales que monsieur Julien Palouc, le ministre de l'industrie a initié. Ce sont des éléments qui vont produire justement à moyen terme. Et aussi, je vais vous rappeler quelque chose que nous avons fait des mesures rapides, que nous avons eu à faire au ministère de l'économie. C'est que nous avons redynamisé le comité de suivi. Les comités de suivi étaient en léthargie. C'était un comité qui ne travaillait plus depuis plus de 5 ans. Alors nous, quand on est arrivé, nous avons redynamisé le comité de suivi des prix des produits de première nécessité. C'est un cadre consultatif qui nous met, qui met ensemble dans une table de négociation, d'une part les opérateurs économiques, de l'autre part les gouvernements représentés par la présidence, par la primature, par l'économie nationale. Et au-delà de cela, nous avons également intégré des structures spécifiques telles que le CPCE, telles que l'Association des consommateurs, et de l'autre part, nous avons nos partenaires, que j'aime bien dire, les opérateurs économiques. Ce sont des personnes qui vont ensemble cogiter pour, évidemment, anticiper sur des perspectives de hausse des prix dans l'avenir. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus. Deuxième mesure que nous avons eu à prendre, c'est le mécanisme de contrôle. Contrôle des routines et contrôle ponctuel. Ce que nous faisons actuellement, nous avons mis nos OPJ, c'est-à-dire nos contrôleurs du ministère de l'économie, sur terrain, et nous avons associé à ces contrôleurs les OPJ du parquet. C'est vraiment une mesure qui se prend de manière spécifique pour permettre à ce que cette opération soit la plus efficace pour avoir des résultats efficaces à très court terme parce que le gouvernement attend des résultats de ces contrôles que nous avons bel et bien demandé à nos à nos agences du ministère de l'économie de faire.
De faire le suivi. Madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes Madame Acacia Bandoubola, ministre de l'économie. Il faut encore, c'était un grand plaisir de partager ces 57 minutes interactives avec nous. Nous avons beaucoup de choses à dire. Nous renvoyons nos auditeurs sur www.radiocapi.net. Posez vos questions, participez à ces débats et nous allons nous retrouver très prochainement. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission et à très bientôt pour un autre numéro. Il y avait tellement...